Romains chapitre 8, Romains chapitre 8. C'est bien de voir les gens que le Seigneur ajoute à l'Église depuis quelques mois. On a un Flamand qui parle français qui vient maintenant à notre Église, qui est marié avec une Polonaise qui parle polonais et qui apprend le français. On a une sœur qui vient de la Flandre, une Brésilienne qui vient de la Flandre et qui fait 70 bornes pour venir et 70 bornes pour retourner, qui a de la difficulté à comprendre mon accent, mais qui, par la grâce de Dieu, se déplace le dimanche pour venir prendre ce moment de communion fraternelle entre les frères et sœurs parce qu'elle a la même espérance que nous. Et il y en a d'autres aussi. Mon frère Edmond, qui a accepté le Seigneur lors de la campagne cette année et qui habite une rue, c'est la rue de la Prévoyance, c'est ça? Rue de la Prévoyance, juste à côté de Gaetano, qui a 85 ans et qui, par hasard, eh bien, est né dans le même village que le père de Marie-Claire. Et ils se connaissent, ils se sont contactés par téléphone. Donc, le Seigneur est bon de nous envoyer des gens qui viennent de différents milieux. C'est un ajout important et très positif pour l'Église. Et continuons à prier. Le Seigneur veut continuer aussi à toucher les cœurs. La vie est remplie de mystères, la vie est remplie de drames, de bonnes et de mauvaises surprises. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Il y a tellement de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Et les gens, malgré qu'ils soient riches ou pauvres, ne sont jamais, 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 jamais satisfaits. Jamais satisfaits. J'allais faire des photocopies quand j'étais à Verviers, dans l'armée du salut. Il y avait un vieux monsieur qui était propriétaire de plusieurs centres de photocopies. Il avait 85 ans. Il continuait à travailler comme un bourreau. Et quand je lui ai témoigné du Seigneur Jésus, il m'a dit, écoute, tout ce qui compte dans la vie, c'est le pognon, le pognon, le pognon. C'est incroyable d'entendre un bonhomme de 85 ans qui vous dit, c'est le pognon, le pognon, le pognon. Philippe Bouvard, c'est un homme extrêmement frustré dans une de ses dernières entrevues. Il a dit que ce qui le frustrait le plus, c'est d'avoir passé tant d'années à travailler comme un fou et de voir sa piscine, de voir la vue sur la mer, de voir tout ce qu'il a, eh bien, qu'il va devoir laisser ici. Il réalise ça après plus de 80 ans d'existence. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur et que quand il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui perdent tout d'un coup, eh bien, on les voit qui sautent par les fenêtres, qui se jettent en bas des édifices parce qu'ils ont mis toute leur espérance dans du papier ou aujourd'hui dans une carte. Lorsque vous examinez Romains chapitre 8, vous découvrez que Dieu donne un véritable sens à tout ce que nous voyons. Nous allons regarder quelque chose ce matin concernant la grâce incroyable que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Un homme a récemment écrit un livre dont le titre est « Pourquoi arrive-t-il de mauvaises choses aux bonnes personnes? » Pourquoi arrive-t-il de mauvaises choses aux bonnes personnes? C'est un beau titre pour un livre, mais c'est un titre qui me dérange parce que Jésus a dit qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. C'est vrai, hein? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et au lieu d'écrire « Pourquoi arrive-t-il de mauvaises choses aux bonnes personnes? » Permettez-moi de modifier le titre en disant « Pourquoi arrive-t-il de bonnes choses aux gens qui ne le méritent pas? » Pourquoi arrive-t-il de bonnes choses aux gens qui ne le méritent pas? Pourquoi Dieu en Jésus-Christ déverse-t-il de bonnes choses à des gens qui ne le méritent pas? Parce que nous avons un Dieu qui est gracieux. Parce que nous avons un Dieu qui est gracieux. Et parce qu'il n'a jamais péché, parce qu'il n'a point de mal en lui. Jamais sa grâce ne sera modifiée, même dans l'éternité. Quelle promesse nous avons. Nous avons un Dieu si gracieux. Ce que je veux dire, c'est que toute bonne chose que nous recevons de la part de Dieu, c'est par pure grâce et à cause de sa bonté. Parce que nous n'avons aucun droit au plus petit bienfait de Dieu, frères et sœurs. Toute bénédiction est une grâce de Dieu. Dieu ne nous doit rien. Quel Dieu gracieux nous avons. Quel Dieu gracieux. Nous allons regarder le plan que Dieu a pour nous. Premièrement, ce matin, nous allons regarder la promesse incroyable qui nous est faite et aussi quatre vérités, mais on va faire ça en deux parties. Je ne veux pas vous stresser, me stresser ce matin, mais on va le faire en deux parties. On va voir les deux premiers, les deux premières vérités que vous devriez emprisonner dans votre cœur à tout jamais, si vous avez fait de Jésus-Christ votre Sauveur et votre Seigneur, parce qu'elles vous permettront de vivre votre vie chrétienne d'une manière inébranlable, avec une foi difficilement démolissable. Nous allons regarder premièrement le mot « grâce ». Le mot « grâce », et j'en fais un verbe, « je suis gracié selon le plan de Dieu ». Je suis gracié selon le plan de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Gracié, ça signifie « à cause de mon péché, j'étais condamné et Dieu a annulé ma peine. » Amen. Amen. C'est ça la grâce. Quand un gouverneur d'un État gracie un prisonnier, le prisonnier, il n'a pas eu rien à faire. Il n'a pas commencé à supplier pour avoir la grâce. C'est une grâce que le gouverneur lui fait de lui accorder la liberté. De dire, écoute, ce que tu as fait, maintenant, l'État l'annule. C'est annulé. Et en contrepartie, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, mais il faut reculer il y a 100 ans, c'était souvent parce que la personne s'était repentie. Elle avait reconnu son crime. Et aujourd'hui, Dieu annule notre péché. Non pas en fonction de ce que nous avons fait, mais en fonction de ce que nous avons reconnu, de ce que Christ a fait pour nous à la croix. On s'est repenti. Actes chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, » dit l'apôtre. Extraordinaire! Commençons à lire à partir du verset 28. Je vais lire encore le verset 28. « Nous savons du reste que toutes choses, non pas certaines choses, toutes choses, tout ce que vous avez fait dans votre vie, nous savons que du reste que toutes choses, non pas certaines choses, mais toutes choses qui surviennent dans votre vie, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. » Remarquez ce qui est décrit ici, « selon son dessein ». En d'autres mots, toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Son dessein, c'est le plan de Dieu. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt, « Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi ». Et finalement, le premier plan de Dieu, il est le même pour vous et pour moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, il y a quelque chose ici, il y a une condition. Il y a une condition ici. C'est aimer Dieu. Toutes choses concourent au bien. Il ne dit pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas au bien des enfants de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mot « aimer » ? Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Le mot « aimer » ici, il est synonyme d'obéissance. D'obéissance. Tout concourt au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Ouais. L'apôtre Paul dit ici que Dieu a un plan. Quel est maintenant ce plan? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève et toute sa progéniture? Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il décidé de quitter la terre pour venir quitter le ciel pour venir sur la terre? Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi a-t-il versé son sang? Pourquoi a-t-il accepté de mourir sur la croix? Pourquoi est-il sorti du tombeau, frères et sœurs? Pourquoi est-il remonté au ciel? Pourquoi est-il pardonné vos péchés et mes péchés? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le plan éternel de Dieu pour vous et pour moi, frères et sœurs? Dieu nous a graciés selon son plan, et son plan, c'est le suivant. Nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Nous amener à ressembler à Jésus-Christ, frères et sœurs. Et ça passe par la sanctification. Voilà pourquoi la sanctification, elle est fondamentale, primordiale dans la vie chrétienne, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est pas que j'ai levé ma main, c'est terminé. C'est pas que j'ai ouvert la bouche et dit « Seigneur, reçois-moi ». La véritable foi qui sauve, elle se démontre dans la pratique. Ça ne veut pas dire que je tombe jamais, mais elle se démontre dans la pratique. Et Jean dit « si vous péchez ». Pour Jean, c'est une exception. Alors que souvent, c'est le contraire pour certains. C'est l'exception quand ils ne pêchent pas. Et Paul ici, j'ai lu le début de Romains chapitre 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je l'ai lu en français courant pour que ça soit clair. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Pour ceux qui obéissent à Jésus-Christ. C'est ce qui nous garde unis. C'est ce qui fait notre force. Dieu nous a graciés selon son plan, et son plan, c'est le suivant. Nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Vous vous dites peut-être, est-ce que c'est tout? C'est tout, lisons encore une fois. Romains chapitre 8, verset 28, première partie du verset 29. Ceux qui sont appelés selon son plan, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, c'est-à-dire à être semblables à l'image de son Fils. C'est ce que le texte dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est-à-dire qu'il a aussi décidé de les rendre semblables à son Fils. C'est tout, et ce, afin que nous puissions le connaître, l'adorer et vivre en communion avec lui. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait jamais inviter les frères et sœurs pour avoir du bon temps, autrement que pour avoir du bon temps dans le Seigneur. Il m'est difficile de comprendre qu'on puisse s'inviter les uns les autres sans parler de ce qui fait notre espérance vivante à la personne de Jésus-Christ. Et si on s'invite les uns les autres à la maison et qu'on ne parle pas de Jésus-Christ, on va finir par parler des autres et on va finir par parler en mal des autres. Et ça ne glorifie pas personne et ça édifie pas personne. Quand vous regardez le chapitre dans le livre des Actes, le chapitre 4, les chrétiens étaient contents de se rencontrer ensemble, pas pour critiquer, démolir les gens, mais pour s'encourager, se consoler, se fortifier dans leur foi qui était commune. Et là, ils étaient craqués et ils pouvaient sortir et proclamer le beau nom de Jésus-Christ, ce qui faisait leur espérance. Mais pas pour aller raconter tout ce qui n'allait pas, puis pas pour raconter qu'ils n'en peuvent plus, puis que c'est fluide, puis... Non! Ils se rencontraient pour se stimuler mutuellement dans leur foi qui était commune. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de revenir à cela. On a un esprit d'individualisme qui nous empêche de vivre en communauté. En communauté, ça ne veut pas dire dans un cercle fermé, dans une secte. Mais on a besoin de se rencontrer régulièrement, pas juste un mercredi soir à l'étude biblique, pas juste un jeudi, lors des réunions de prière, ni le dimanche matin, lors des réunions. On a besoin de se fréquenter. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point vous êtes un soutien spirituel et moral pour des frères et sœurs qui vivent des choses et que vous n'êtes même pas au courant. Frères et sœurs, si on est capable de prendre 2 à 3 heures par semaine pour aller faire des courses, on est capable de prendre 15 minutes pour aller visiter nos frères et sœurs qui traînent dans les maisons de repos. Pour certains, c'est beaucoup moins loin de se rendre à la maison de repos que de se rendre à l'épicerie. Frères et sœurs, je tiens à vous rappeler qu'on sème ce qu'on récolte et qu'un jour, ce sera votre tour peut-être d'être dans une maison de repos et que vous pleurez peut-être à chaudes larmes parce que les frères et sœurs vous ont oublié. Et Dieu vous rappellera aussi votre parcours avant que vous entriez dans les maisons de repos. Frères et sœurs, Dieu, voilà pourquoi dans le plan de Dieu, Dieu veut que nous ressemblions à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est-il mort sur cette croix? Pour restaurer cette image de Dieu que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden et qu'il a été défiguré chez les êtres humains et dans la société à cause du péché. Et il l'a fait. Frères et sœurs, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homme et femme, nous dit la parole. À travers ceux qui sont nés de nouveau, Dieu vise à faire d'eux des hommes, des femmes qui ont la pensée de Christ, qui sont renouvelés à l'image de Christ et qui marchent comme Jésus a marché. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il appartient à Jésus doit marcher comme Jésus a marché. Or, l'image ne mérite parfaitement son nom que si elle ressemble au modèle. Vous imaginez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est la seule personne dans tout l'univers, en dehors des anges, bien sûr, mais la seule personne qui peut entrer en contact avec son Dieu et à ressemblance capable de faire la volonté de Dieu. C'est ce que l'homme a perdu dans le jardin. Et en Jésus-Christ, le miracle de la croix, c'est ça. On récupère cette image et cette ressemblance. Et la ressemblance, elle se développe au niveau de la sanctification. Et cette image, elle se retrouve à travers la nouvelle naissance. On repart à zéro. Si on repart à zéro, on est sans péché quand on repart à zéro avec la nouvelle naissance. On repart à zéro.
Le vieux Jacques Hunon est mort,
crucifié.
C'est un nouveau qui peut compter sur quelqu'un pour parcourir le chemin qui est tracé pour lui.
Et c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs?
Amen.
Le Seigneur ne nous demande pas de comprendre sa parole, il nous demande d'y croire.
Parce que si on essaie trop de la comprendre, on va fonctionner par les apparences. Les apparences, c'est les émotions, les sentiments. Hein, les sentiments, c'est intérieur, les émotions, c'est l'extérieur. Hein, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur.
Hein. Oui.
La sainteté, c'est ressembler à Jésus-Christ et elle est rendue possible grâce au Saint-Esprit, pas par mes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie, nous dit la parole. Voilà pourquoi nous devons prêcher la justification par la foi et la nécessité de la nouvelle naissance. Et frères et sœurs, c'est un des problèmes que l'Église de Jésus-Christ a connu dans la deuxième partie du 20e siècle. On a prêché la conversion. Acte 3, 19, je l'ai situé, je l'ai dit tantôt. L'apôtre, il dit, « Repentez-vous et convertissez-vous. » Nous, on a prêché, « Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. » Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Pendant des années, j'ai entendu des appels au salut. « Convertis-toi. » On oublie la repentance. La repentance, elle est essentielle. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus-Christ a prêché la repentance. Le premier message des apôtres, l'apôtre Pierre, « Repentez-vous. » L'apôtre Paul prêche la repentance. Jésus envoie ses disciples prêcher la repentance. Et c'est certain que ce n'est pas un message qui est populaire. C'est certain que ça chatouille les poils des gens. Même pas se faire mettre sur le... Se faire mettre, dire, hey, c'est ça que t'es. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, hein. La parole a dit rien de bon à moi. Ben, j'aime pas, hein? Moi j'aime pas ça, hein. Vous aimez ça, vous, quand quelqu'un vous dit rien de bon à toi. Tu penses bon, mais t'es rien. Mais non, hein. Les enfants, ça passe, les adultes, c'est dur pour l'orgueil, non? Et Jésus-Christ est l'image parfaite du Dieu vivant et bienfaisant, et le salut, la nouvelle naissance, restaure cette image de Dieu en nous. Et cette œuvre dynamique continue en agissant dans notre comportement, frères et sœurs. Chers amis, le but du salut, c'est plus que la justification. Le but du salut, c'est beaucoup plus que le pardon de mes péchés. Je l'ai dit la semaine passée, je le répète, c'est important. C'est la sanctification, c'est-à-dire une transformation profonde à l'image de Jésus-Christ et selon ses pensées. Amen. C'est à travers une nouvelle naissance que nous entrons dans le style de vie gratifiant voulu par le Père, marqué par la paix et la joie. Romains chapitre 12, chapitre 15, verset 13. Par notre volonté d'être et de vivre comme ses enfants, qui sont à son image et à sa ressemblance, et lorsque Jésus reviendra, nous serons alors... Est-ce que j'ai le verset ici? Nous serons alors rendus semblables à lui parfaitement... Parce que nous aurons alors un corps semblable à lui. C'est tout ce qui nous manque, hein? Il y a des chrétiens qui viennent dans les églises, qui ne bougent pas, qui attendent le retour du Seigneur, parce qu'ils ont hâte de goûter à sa joie et à sa paix dans le ciel. Moi, ce n'est pas ce que mon évangile me dit. C'est que mon évangile me dit que quand je reçois Jésus-Christ, je reçois sa paix, je reçois sa joie maintenant sur la terre. Et que cette joie et cette paix, elle va m'accompagner au ciel. Quand mon corps sera transformé, il n'y a rien qui va changer à part du décor. Ce sera une nouvelle terre et des nouveaux cieux où il n'y aura plus de mort, plus de noirceur, plus de pleurs, plus de guerre, plus de péché. Il n'y aura plus rien parce que tout ça aurait été effacé. Et celui qui est l'auteur, qui est derrière tout ça, aurait été envoyé dans le lac de feu. Amen. Ouais. Frères et sœurs, il faudrait avoir une grande réalité, peut-être une plus grande réalité de ce qu'est l'enfer. Luc chapitre 16, je vous ai dit déjà dans une prédication que ça, c'est le séjour des morts. Et le riche, il souffre tellement qu'il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un avertir ses frères de ne pas venir dans ce lieu-là. Ça, c'est le séjour des morts. À la fin des temps, tous ceux qui sont dans le séjour des morts en attente du jugement, ils vont sortir. Et je vous invite à aller dans l'Apocalypse. Ils vont être jetés dans le lac de feu. Dans le lac de feu pour l'éternité. Avez-vous compassion pour vos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur? Priez pour vos enfants, intercédez pour vos enfants jour et nuit. Dans le lac de feu, quand j'entends les gens pêcher sur l'enfer, certains. Non, c'est spirituel, c'est symbolique l'enfer. C'est simplement la séparation de Dieu pour l'éternité. Oui, mais les souffrances terribles que ces gens-là vont subir pour l'éternité, c'est épouvantable. On ne joue pas avec le ciel, on ne joue pas avec l'enfer. Ça a coûté tellement cher à Dieu que Dieu ne peut pas prendre ça pour un jouet. Prions pour nos enfants, prions pour ceux des gens que nous sommes en contact, pour que nous soyons un bon témoignage, pour les attirer à Christ et non pas pour les éloigner de Christ. Le témoignage, il est capital. Et je le répète, je le dis depuis 15 ans, ce que les gens ont besoin de voir en 2015, ce n'est pas des gens qui connaissent la parole de Dieu, ce sont des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Connaître la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau, mais connaître le Dieu de la parole, ça veut dire que tu vis une relation intense, personnelle et vivante avec ton Dieu. Et c'est ce que les gens ont besoin de voir aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez que Dieu est capable d'accomplir des miracles à travers vous, encore aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, parce que c'est Christ qui agit en vous? Et on a un ennemi, par contre, qui est là, qui essaie de nous brancher sur la télévision, sur faire de nous des idoles du sport, de faire de nous des idoles des téléréalités, qui nous fait perdre notre temps. Et Paul dit, rachetez le temps, rachète le temps. Tu ne sais pas quand Dieu va te rappeler à toi, à lui. Rachète le temps. Pense à tes enfants qui te voient braquer sur la TV toute la journée. Pense à tes enfants qui ne te voient parler que du foot à chaque fois que tu en as l'occasion. Alors qu'ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont besoin d'avoir des parents qui vivent la personne de Jésus-Christ, que Christ est une réalité pour eux. Voulez-vous savoir où vous en êtes rendu dans votre vie chrétienne, frères et sœurs? Ressemblez-vous de plus en plus à Jésus-Christ ce matin? C'est tout. La question n'est pas de savoir si vous êtes en train de devenir un meilleur baptiste ou encore si vous plaisez bien à l'église de Delain. Non, la question est la suivante. Est-ce que le plan de Dieu est en train de s'accomplir en vous? Est-ce que vous ressemblez de plus en plus à Jésus-Christ, c'est tout. Ce qui préoccupe principalement Dieu, ce n'est pas que vous soyez en bonne santé, que vous soyez riche, que vous soyez apprécié ou populaire. Le plan de Dieu, c'est de faire de vous quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et si vous recevez du Seigneur la santé et la richesse, remerciez-le pour cela parce que c'est une grâce de plus qu'il vous accorde. Et priez-le que ça ne devienne pas un piège pour vous. Vous dites, eh bien, pasteur, qu'arrive-t-il si le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie, moi? Mes amis, si vous lui appartenez, si vous êtes nés de nouveau, il fera ce qu'il a prévu pour vous. Vous pouvez miser là-dessus, frères et sœurs. Si vous baignez dans le péché, vous appartenez au Seigneur, tôt ou tard, vous allez savoir une tape à quelque part. Mais si vous baignez dans le péché, que Dieu n'intervient pas, bien, remettez en question votre pas de foi. Remettez en question votre vie chrétienne parce qu'il y a un gros problème. Moi, je vous en parle un matin, pas parce que je veux vous condamner, parce que je vous aime, parce que je vous ai à cœur et je veux qu'on passe tous l'éternité ensemble. Et c'est mon devoir de vous en parler en tant que pasteur ce matin. Vous avez été gracié selon le plan de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Lisons les versets 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi glorifiés. Et c'est-à-dire quoi? Il leur a aussi accordé le privilège, la grâce extraordinaire de participer à sa gloire. » Ah! Extraordinaire! L'apôtre Paul, il dit, « Dieu vous donne le privilège de pouvoir participer à la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que par votre vie chrétienne, parce que vous marchez dans la sanctification, quand les gens vous rencontrent, ils sont capables de voir Christ qui transpire à travers vous. C'est déjà un miracle en soi, frères et sœurs, parce que ça nous démontre le travail que Dieu est en train de faire dans notre vie. Mais plus que ça, Dieu se glorifie en vous parce qu'il veut encore faire des miracles à travers ses enfants. Et le plus grand miracle, c'est d'amener quelqu'un de passer de la mort à la vie, de passer des ténèbres à la lumière. Amen. Dieu, c'est une grâce que Dieu vous fait de pouvoir se glorifier à travers vous. Merveilleux. Est-ce que vous savez que c'est déjà réglé dans le ciel? Dieu fera tout pour vous amener à ressembler à Jésus. Parce que vous êtes tous prédestinés à lui ressembler, et ce, depuis toute éternité. Dieu a dit c'est que j'ai décidé d'avance pour Jacques, c'est de ressembler à Jésus-Christ, et je vais prendre tous les moyens possibles pour y arriver. Amen. Et ce, parce que je lui appartiens. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse ici. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un à aller en enfer. Jamais. La prédestination fait toujours référence à ceux qui sont sauvés et jamais à ceux qui sont perdus dans la parole. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La prédestination parle de l'individu qui a fait le choix de recevoir Jésus-Christ. Voici comment il faut comprendre le plan de Dieu à propos de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Tous les hommes sont prédestinés à être sauvés. Mais ce n'est pas tous les hommes qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, je suis d'accord avec John Wesley de dire que Dieu a créé des gens pour aller en enfer et des gens pour aller au ciel. Ça fait de Dieu l'auteur du péché. Ça signifie que si quelqu'un entend l'Évangile qui va accepter le Seigneur Jésus, ce n'est pas le diable qui l'empêche, c'est le Saint-Esprit qui l'empêcherait de recevoir la parole parce qu'il est prédestiné à aller en enfer. Et ça, je suis entièrement d'accord avec la position de Wesley là-dessus. Frères et sœurs, et ça me touche au niveau de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais la prédestination ne concerne jamais les perdus, toujours les sauvés. Et ça, je pense que c'est encourageant pour nous. Prédestiner, ça veut dire décider d'avance. Dieu a décidé d'avance de sauver l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, le quiconque, c'est tous ceux qui vont venir sur la terre, quiconque. Allez voir dans le grec, ça veut dire quiconque. On ne peut pas faire des choix, quiconque. Qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu sait d'avance qu'il acceptera, puisqu'il sait tout. Et pour ceux-là, il prépare une part bienheureuse. Il les prédestine à être conforme à son Fils et à être adopté. Éphésiens chapitre 1, verset 5. La prédestination est infiniment reliée à ce que Dieu connaît d'avance et non pas à sa volonté de sauver les uns et de punir les autres. On oublie, on parle souvent de l'omniscience de Dieu, mais on oublie la préscience de Dieu. Lorsque Dieu me voit recevoir Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, il me prédestine à ressembler à Jésus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et prédestiné signifie que c'est déjà réglé dans le cœur et dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pensé à chaque être humain dès avant sa naissance. Il l'a aimé et continue à l'aimer, quel que soit son péché. Amen. Quelle que soit la gravité de son péché, Dieu continue à l'aimer. Même s'il déteste le péché, Dieu aime le pécheur. Et Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tous parviennent au salut. Amen. Vous dites, est-ce que cela signifie, pasteur, que je n'ai pas le choix? Vous êtes libre de faire les choix que vous voulez. Je fais des choix tous les jours. Certains choix sont bons, d'autres sont mauvais. En 2008, je me trouvais dans un avion qui venait de quitter le Canada pour venir ici en Belgique. À bord de l'avion, j'ai eu à faire plusieurs choix. Lire une revue, lire ma Bible, prendre une boisson gazeuse plutôt qu'un café, et ainsi de suite. J'étais libre de faire ce que je voulais. Cependant, lorsque l'avion a quitté l'aéroport de Montréal, il y avait un lieu prédestiné d'avance, décidé d'avance, où cet avion allait atterrir. Malgré les choix que je fais dans l'avion. Pourtant, entre le décollage et l'atterrissage de l'avion, j'ai pris toutes sortes de décisions, et tandis que je prenais toutes ces décisions, il y avait quelque chose qui avait déjà été décidé d'avance par les dirigeants de l'entreprise. L'avion quitterait Montréal pour atterrir à Bruxelles. Je suis d'accord que chaque illustration a ses faiblesses. Je suis d'accord que l'avion aurait pu s'écraser avant d'arriver à Bruxelles, qu'elle aurait pu être contrôlée par des pirates de l'air en plein vol, qu'on aurait pu déposer une bombe dans l'avion et qu'elle aurait pu sauter. Je suis d'accord avec ça. Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que dans le cœur et dans la pensée des membres de l'équipage et du pilote, pendant que je suis à bord de l'avion et que je prends certaines décisions, il y a une grande décision qui a déjà été prise et qui ne changera pas, celle de conduire les passagers à Bruxelles. C'est prédestiné, c'est décidé d'avance. Ainsi en est-il pour votre vie, et ce, peu importe les décisions que vous prenez. Dieu a déjà pris la décision.
de vivre, de vous amener au ciel, frères et sœurs. Dieu a déjà pris la décision, vous êtes prédestinés, Dieu a déjà pris la décision de vous faire quitter le ciel, la terre, pour vous faire entrer dans le ciel. Le choix est important. Ça passe par la croix. Si vous voulez, j'utilise une image, voilà notre avion. Mais Dieu a prédestiné depuis toute éternité. Je suis décidé. Peu importe ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu va œuvrer dans votre vie pour vous amener à ressembler à Jésus-Christ. C'est prédestiné. Vous avez été graciés selon le plan de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, c'est-à-dire contribue au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Car ils sont appelés selon son plan. Pourquoi de bonnes choses arrivent-elles à des gens qui ne le méritent pas? Premièrement, parce que nous avons été graciés selon le plan de Dieu. Et selon ce plan, Dieu vise à nous faire ressembler au Seigneur Jésus, peu importe ce qui survient dans nos vies. Deuxièmement, comment le plan de Dieu s'accomplit-il dans ma vie? Par sa providence. Romains chapitre 8, verset 28. Par sa providence, la divine providence est le moyen par lequel et au travers duquel Dieu gouverne toutes choses dans l'univers. La doctrine de la divine providence affirme que Dieu a le plein contrôle sur toutes choses. C'est pas qu'il arrive une guerre, puis là, Dieu doit changer tous ses plans. Dieu connaît toutes choses d'avance. Faut pas toucher à la souveraineté de Dieu ni à l'omniscience de Dieu. Dieu n'est jamais pris de court. Dieu sait déjà tout ce qui va arriver. Tout ce qui va arriver. Et depuis toute éternité, essayez de reculer le temps, éternité. S'il fallait que Dieu soit pris d'avance, on a un gros problème, hein? Face aux situations du monde. Dieu connaît toutes choses d'avance. Et même si Dieu sait qui va l'accepter, qui va le refuser, il aime autant celui qui le refuse. Parce qu'il lui donnera la capacité jusqu'à la fin de l'accepter. Et l'image que j'ai, c'est celle de Jésus à la Sainte-Cène, avec ses 12 apôtres, alors que Judas est présent. Et que Judas va prendre la coupe. Et que Judas va manger le pain. Et jusqu'à la fin, Jésus, sachant qu'il allait le trahir par un baiser, lui donne la chance de se repentir jusqu'à la dernière limite. Dieu va arriver à faire ce qu'il a décidé, frères et sœurs, parce que personne ne peut contrecarrer son plan. Remarquez ce que Paul dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien ou pour le bien. En fait, dans le grec, c'est pour le bien. Le mot pour est une proposition, et cette proposition, elle souligne dans la langue grecque que nous avançons vers un but. Pour un but bien spécifique. Le mot « pour » implique ce mouvement vers un objectif. Dieu a en tête un plan. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si on arrivait, puis l'Évangile, c'était « Écoute, accepte Jésus-Christ, t'es sauvé. Tu te tais, tu dis plus rien, tu bouges plus, tu fais plus rien. Hey, ça serait une vie ennuyante. » Mais là, la parole nous dit à travers l'apôtre Paul que Dieu a un plan. Frères et sœurs, les jeunes, ils planifient des études. Ils planifient de se marier. Ils planifient un travail. Ils planifient ci, ils planifient ça. Dieu planifie un plan pour vous. C'est extraordinaire. Et quel est ce plan? C'est de ressembler à la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi fera encore de plus grandes choses que moi. Hey, on est Dieu, hein? Hey, quelle humilité de la part de Jésus, hein? Il aurait pu dire, hey, ceux qui vont croire en moi, il n'y a personne à travers ceux qui vont croire en moi qui vont faire de plus grandes choses que moi. Je suis Dieu. Jésus fait référence à la nouvelle naissance, frères et sœurs. Extraordinaire. La joie des anges qui transpire quand vous amenez quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ. Magnifique. Vous voyez l'œuvre de Dieu qui agit parce que l'Évangile est annoncé. Parce que Dieu voit d'avance ce qui va arriver. Avant même que la chose arrive, il prend des dispositions pour que son plan ou ses promesses s'accomplissent. Dieu voit simplement d'avance et il agit par conséquence pour accomplir le plan qu'il a d'avance décidé. Dieu pourvoira, et c'est ce que nous appelons la providence. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu à cause de la providence de Dieu. Voilà pourquoi il est important de se rappeler que nous ne vivons pas en fonction des apparences, parce que les apparences sont souvent trompeuses, mais que nous vivons en fonction des promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ce même quand tout ne va pas comme nous le voulons, parce que nous savons que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Frères et sœurs, si vous vivez des problèmes, si vous vivez, mais dans la misère totale, parce que vous avez votre famille, vous faites des problèmes, parce qu'un tel ne vous lâche pas, parce qu'on se moque de vous, Si on le fait parce que vous êtes chrétien, parce que vous marchez fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ, la parole dit « Réjouissez-vous ». Mais si tu es persécuté, si on tire la pipe, parce que tu fais semblant d'être un chrétien, tu es un faux témoignage, tu es un mauvais témoignage, mais leur mets-toi à genoux, mets-toi en règle avec le Seigneur, ou mets-toi en règle la première fois avec le Seigneur, parce que c'est pas tout concourt au bien. Non. S'il n'y a rien qui va concourir à ton bien, tu es en train de provoquer ton propre malheur, tu es en train de creuser ta propre fosse, ton propre trou. Hein. Si les gens parlent en mal de toi, parce que tu vis dans le péché, ça c'est ton problème. Mais si les gens parlent en mal de toi, parce que tu marches fidèlement, la parole est claire. Tous ceux qui voudront vivre fidèlement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut passer par beaucoup de persécutions pour entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous êtes beaucoup persécutés à cause de Jésus-Christ dans votre vie? Il fut un moment où John Wesley a été une journée sans être persécuté. Il est en train de faire une dépression, il s'est mis à genoux, il voulait savoir quel péché il avait fait. Une journée dans sa vie. Quand il est sorti, il y en a un qui a lancé une pierre en plein front. Il a traité de tous les noms. Il s'est mis à genoux et a glorifié le Seigneur, a dit « Merci Seigneur ». Ça monte à quand la dernière fois qu'on a été persécuté pour le Seigneur? Vous savez, c'est quoi notre problème, frères et sœurs? On a bien trop de biens. On a bien trop d'argent dans nos comptes de banque. On n'est pas prêt à perdre notre réputation à cause de ça, frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous savez qu'avant de venir en Belgique, c'est ma maison qui me retenait. Hey, les heures que j'avais passées. Hein? Ouais, au Québec. Ma piscine. Ah, hey. Hein? Nos deux voitures. Ah, hein? Aller vers l'inconnu. Bien, je dois témoigner aujourd'hui que je n'ai jamais été déçu avec le Seigneur. Jamais. Et que ma famille, je n'ai jamais eu une famille aussi proche que celle de Delin. Et quand je suis retourné au Québec en 2008, je me sentais comme un étranger sur une terre étrangère. Comme Abraham, quand Dieu appelle, Dieu équipe. Et mon pays aujourd'hui, c'est la Belgique. Mes frères et sœurs, c'est vous, et ainsi tous ceux que je peux rencontrer. Il est bon de rappeler aussi que tout ce qui arrive sur la terre n'est pas la volonté parfaite de Dieu. L'homme a le libre choix, malgré que son cœur soit tortueux par-dessus tout. Et il a la liberté de faire des choix. Et lorsqu'il commet le mal, Dieu pourvoit, intervient pour prendre soin de ses enfants. Frères et sœurs, même si tout ne va pas comme vous le voulez, rappelez-vous que rien n'échappe à Dieu et qu'il demeure en contrôle de toute situation. Toute situation. Il est souverain. Il est omniscient. Il voit devenir les coups d'avance depuis toute éternité. Il n'a pas entendu, il n'a pas entendu hier, depuis toute éternité. Il savait ce que vous diriez. Il savait ce que vous feriez depuis toute éternité, pas la semaine passée, depuis toute éternité. Le temps n'existe pas pour Dieu. C'est assis de vous imaginer ça. On n'est pas capable, hein, à vue humaine, d'imaginer ça. Il n'y a pas eu de commencement, et l'éternité, elle continue. Il n'y a pas eu de commencement. Et il n'y a pas de fin. Et c'est là-dedans qu'on est appelé à vivre. C'est là-dedans qu'on est appelé à vivre, frères et sœurs. C'est extraordinaire, essayez de comprendre, c'est impossible. Dieu permet que cela arrive dans votre vie parce qu'il a un plan, ce plan merveilleux pour vous et qu'il veut votre bien, qu'il veut votre bien. J'ai lu l'histoire de ce fermier qui avait accumulé un tas de broussailles qu'il s'apprêtait à brûler. Alors qu'il était près du tas de broussailles, il découvre qu'un petit oiseau y avait construit un nid. Il savait que le petit oiseau avait choisi un mauvais endroit pour construire son nid, alors il va détruire le nid. Il revient quelques jours plus tard, il découvre que l'oiseau avait reconstruit le nid dans le même tas de broussailles. Alors le fermier détruit à nouveau le nid. Et je pense qu'il a agi ainsi à trois reprises, si je ne me trompe pas. Finalement, le petit oiseau abandonna, mais je peux imaginer ce petit oiseau entrant dans son nouveau nid, dire à sa compagne, « Je ne sais pas ce qui s'arrive, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses sont contre nous, mais je ne sais pas pourquoi lorsque je tentais de construire un nid, presque immédiatement il était détruit. » Eh bien, il y avait une main que ce petit oiseau ne voyait pas et qui agissait pour sauver sa vie. Parce que le fermier s'apprêtait à mettre le feu au tas de broussailles. Les petits auraient brûlé. Le nid aurait été détruit. Il pensait qu'on lui voulait du mal alors qu'en réalité, tout ce qui lui arrivait ne visait que son bien.
Il en est de même pour nous. Si on marche avec Christ, on peut penser que les gens nous voient, veulent du mal, mais celui qu'on ne voit pas est là, il travaille pour notre bien. Mais on a toujours les yeux fixés sur ce qu'on voit, alors qu'on oublie de fixer nos yeux sur celui qui est là, qui veille sur nos vies, qui est en contrôle de nos vies. J'ai lu l'histoire d'un garçon qui avait un pied tordu, au point qu'il devait marcher de côté. Un jeune garçon, hein, tout jeune garçon, il devait marcher de côté. Il était vraiment, vraiment handicapé. Et le père qui aimait son fils de tout son cœur, eh bien, va l'amener voir les meilleurs chirurgiens d'orthopédie. Et tous vont répondre la même chose. Nous ne pouvons rien faire pour votre fils, il marchera de côté toute sa vie. Et je comprends la tristesse des parents d'avoir un enfant qui physiquement est handicapé. Le père ne lance pas la serviette pour autant. Il commence à étudier, il suit des cours privés en orthopédie et en médecine. Et il commence à lire, à étudier tout ce qui concerne les os, les ligaments et les tendons. Il décide alors de redresser et il dit, « Moi, je vais essayer de redresser le pied de mon fils. » Et ce, même si les médecins ont dit le contraire. Il va se mettre à l'œuvre, il va construire une sorte de boîte dans laquelle il insère des vis qu'il va rembourrer à l'intérieur pour ne pas blesser le petit et qui pouvait être serré de l'extérieur. Il va ensuite placer cette boîte autour du pied de son fils et il va commencer à serrer les vis, une par une, jusqu'à ce que le garçon crie de douleur. Il lui dit, « Fiston, je t'aime, je te demande juste une chose, fais confiance à papa. » Ce soir-là, le garçon allait se coucher avec cette boîte autour de son pied. Le jour suivant, il se leva, et le père resserra un peu plus les vis. Le garçon se mit à crier de douleur. Le père le réconfortait, et le garçon dut supporter jour après jour cette boîte que le père avait mise autour de son pied. Puis le moment vint où le père dit, « Fiston, aujourd'hui, on va enlever définitivement cette boîte qui se trouve autour de ton pied. » Le père s'exécuta, et lorsque le garçon vit son pied qui était redressé, comme son autre pied, son cœur déborda de joie. Il oublia rapidement toutes les souffrances qu'il avait endurées. Il n'arrêtait pas de remercier son père pour ce qu'il avait accompli dans sa vie. Il lui disait, « Papa, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, papa. C'était douloureux, ça faisait mal, mais je te remercie pour toute la patience que tu as manifestée envers moi. » Ce père avait un plan qu'il avait préparé d'avance pour soigner son fils. Comme ce père avec son enfant, frères et sœurs, Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vous. Il vous demande juste de lui faire confiance. Amen. Amen. Si vous avez la certitude dans votre cœur que Dieu vous aime, bien, la prochaine étape, c'est de dire, je ne peux pas me permettre de ne pas lui faire confiance. Les hommes et les femmes vont vous décevoir. Mais Dieu ne vous décevra jamais. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a appris l'obéissance dans tout ce qu'il a souffert. Vous voulez grandir? Vous voulez ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? Préparez-vous à souffrir. C'est biblique. C'est des promesses. J'invente rien. Jésus le dit même dans l'Évangile de Marc. Après avoir été élevé à la perception, à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. On est dans Actes chapitre 5, rapidement. Une petite parenthèse, hein, vite. Il me reste 10 minutes. Vite. Moi, je fais partie des frères et sœurs, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas faire complice le Saint-Esprit de nos péchés. Et que si on attriste le Saint-Esprit, bien, le Saint-Esprit se retire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas scellé, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Et je m'appuie sur un passage dans Actes chapitre 5, verset 32, verset 29, hein?
Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et verset 32, il dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui appartiennent. » Non, hein? Non, hein? À ceux qui lui obéissent. Acte. Oui? Oui, acte. Chapitre 5, versets 29 et 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sanctification. Pierre, il dit, verset 29, Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et celui qui obéit, le Saint-Esprit habite en lui. Vous ne pouvez pas faire complice le Saint-Esprit en vous. Sinon, ça va brasser, hein? Les deux ne sont pas compatibles, hein? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes rejeté, absolument pas. Mais que si vous n'avez plus envie de prier, si vous n'avez plus envie de lire votre Bible, si vous n'avez plus envie de rien faire dans la vie, dans votre vie chrétienne, il faut vous auto-examiner. C'est important, à partir de la parole. C'est important. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va terminer avec Joseph. Pensez à Joseph. Joseph n'a pas eu une vie facile. Ses frères le détestaient tellement qu'à 17 ans, imaginez-vous à 17 ans, prenez vos enfants à 17 ans, enlevez le nom de Joseph et collez le nom de vos enfants à 17 ans, qui va être vendu comme esclave à une caravane islamite, qui à son tour va arriver en Égypte et qui va vendre votre enfant à un officier du pharaon qui s'appelle Potiphar. Votre enfant va être ensuite injustement accusé d'avoir voulu coucher avec la femme de son maître. Votre enfant, il va être mis en prison. Il va être oublié pendant un certain nombre d'années, malgré les bienfaits qu'il fait, pour finalement ressortir et devenir le premier ministre d'Égypte. Frères et sœurs, si Joseph marche par la vue à chaque épreuve qu'il vit, il doit se poser des questions. Mais il y avait une révélation de Dieu. Et nous avons aujourd'hui la révélation de Dieu. Dieu veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi. On a la révélation, la même révélation que Joseph, sauf que l'appel est différent. Vous êtes tous appelés. La plupart des réveils spirituels ont commencé non pas par les pasteurs ni par les membres des conseils, souvent par celui ou celle qui avait l'air le plus insignifiant dans l'Église. Parce que c'était un homme et une femme de prière. Quel ministère, la prière, qui est sous-estimée, mis de côté. Quel ministère! Des années plus tard, suite à une famine, il reverra ses frères, il se dévoilera à eux. Et lorsque leur père Jacob mourra, Joseph, sachant que ses frères croyaient qu'il se vengerait du traitement qu'il lui avait fait subir, eh bien, dans le passé, leur dira ceci, « Vous avez médité de me faire du mal. » Mais Dieu a changé en bien le mal que vous aviez complété contre moi pour sauver la vie à un peuple nombreux. Frères et sœurs, Joseph ne prétendait pas ici que ses frères ne lui avaient pas fait subir de mal. Il était convaincu du contraire. Ce n'est pas un imbécile, Joseph. Il était premier ministre. Il connaissait les intentions de leur cœur. Après tout, il était là quand ils l'ont piégé et qu'ils l'ont vendu comme esclave. Il était dans la citerne quand il entendait ses frères compléter. On le tue. Et quand le moins sensé parmi tous les frères a dit non, freinez un peu, hein? C'est notre frère. Et qu'on l'a vendu comme esclave. Mais Joseph voyait au-delà de leurs intentions, frères et sœurs. On a besoin de voir comme Joseph. Malgré ce que ses frères lui avaient fait, il savait que Dieu était en train de faire quelque chose qui était beaucoup plus grandiose encore. Il avait réalisé ces choses. Ses frères avaient péché contre Joseph, mais Dieu va utiliser le péché de ses frères pour accomplir son plan éternel à travers Joseph. Voyez-vous toute la façon de voir les choses qui est différente? Trouvez-moi une parole négative de Joseph. Malgré tout ce qu'il a vécu. Il avait même reçu la révélation que le peuple quitterait l'Égypte et qu'il demandait aux frères d'amener ses ossements, de ne pas laisser traîner ses ossements en Égypte. Dans ce seul verset que je viens de lire, Joseph fait le survol de 30 années d'épreuves et de victoires, et il reconnaît que la main de Dieu était dans les moindres petits détails de sa vie. Joseph savait maintenant ce qu'il avait subi, la haine, la trahison, l'esclavage, la prison, la solitude, la séparation avec son père, que tout ce qu'il avait vécu faisait partie d'un plan beaucoup plus grand encore. Et il pouvait glorifier Dieu. Dieu a utilisé les vallées, les victoires dans la vie de Joseph pour atteindre ses frères, pour encourager Jacob, pour amener les enfants d'Israël en Égypte et pour littéralement sauver le monde. Dieu l'a fait pour le bien de tous. Et frères et sœurs, Dieu a permis à Joseph de souffrir pour amener ses frères à la repentance. Si Joseph n'avait pas vécu ça, ses frères ne se seraient jamais repentis. Ils étaient convaincus qu'ils avaient fait ce qui était correct. Frères et sœurs, si vous avez une profonde réalité de l'enfer, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que Joseph ait souffert à toutes ces choses pour le salut de tous ses frères? Ou si vous pensez au plus profond de vous que ses frères méritaient d'aller en enfer pour ce qu'ils avaient fait à Joseph? C'est ce qui nous stimule dans notre évangélisation, frères et sœurs. De voir les gens avec qui on parle, qui sont sur le chemin de l'enfer, qui sont envoûtés, égarés, perdus, parce que l'esprit de ce monde a placé un voile devant eux. Tandis que nous avançons dans cette vie, nous pouvons compter sur le fait que chaque vallée, chaque victoire fait partie du plan parfait que Dieu a pour nous et qu'il les utilisera pour notre bien, pour sa gloire, c'est ce qu'il nous promet. Nous devons admettre en terminant que nous aimons plus remporter les victoires que nous aimons nous retrouver dans les sombres vallées. Nous aimons plus les beaux jours, nous apprécions beaucoup plus les beaux jours que les mauvais jours. Voilà les deux questions à laquelle nous avons à répondre ce matin. Sommes-nous prêts à supporter tout ce que la vie nous réserve, sachant que cela fait partie du plan de Dieu pour nos vies et qu'il se glorifiera le moment venu? Frères et sœurs, quand vous vous arrêtez à la vie de Joseph, Dieu a travaillé dans la vie de Jésus, de Joseph pour l'amener à ressembler à Jésus-Christ. Si ça n'avait pas été le cas la première fois qu'il a vu ses frères, il aurait fait tout arracher la tête. Il en aurait profité pour aider ses frères. Frères et sœurs, si vous ne visez pas, si vous n'aspirez pas à laisser Dieu vous amener à ressembler à Jésus-Christ, vous finirez par avoir de la haine, vous finirez par avoir du non-pardon, vous finirez par avoir un esprit de jugement envers les frères et sœurs qui ne pensent pas comme vous. Le but du plan de Dieu, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ et d'être capable, même quand des frères vous persécutent, de dire « Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait ». C'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est pas facile. Et c'est un travail de tous les instants de la part de Dieu. Mais Dieu renouvelle notre intelligence à travers la parole. Sinon, on retombe dans nos travers, dans notre raisonnement, de notre nature humaine. Et on retombe, on fait trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, tout le temps. Ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse trois pas en avant, peut-être un pas en arrière quand on tombe, mais il est là pour nous relever. Il est toujours là pour nous pardonner. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime autant que moi, ce matin? J'espère. Moi, en tout cas, si vous, vous n'êtes pas convaincu, moi, je suis convaincu que Dieu m'aime autant que vous. Fait que ça m'enlève tout complexe, d'infériorité, de supériorité. Et vous avez, rappelez-vous, vous avez un appel sur votre vie. Vous avez un appel sur votre vie. C'est celui de ressembler jour après jour davantage à la personne de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu a un plan pour vous. Ce plan, il est merveilleux. Et pensez à tous les trésors que Dieu vous réserve dans les cieux. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens dit, « Louons la grandeur de Dieu! » Louons la grandeur de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Louons la grandeur de Dieu, car il a accordé à ceux qui lui appartiennent la grâce et les moyens de ressembler à Jésus-Christ. Amen! On va se lancer, on va saluer, on va chanter les cantiques.